conversation avec Hanan Arat. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre toute première conversation avec aujourd'hui un Marocain du monde. Il est islamologue, essayiste, écrivain et même metteur en scène, un véritable touche-à-tout qui jongle avec plusieurs styles d'écriture et d'expression. Aujourd'hui, le CCME publie en partenariat avec les éditions de Fenech un coffret qui réunit 5 de ses romans qui traitent aussi bien de la radicalisation en islam que de la mémoire de l'immigration en passant par les printemps arabes. Rachid Benzine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est avec nous pour en parler. Rachid Benzine, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous accueillir.
Merci.
Alors, je le disais tout à l'heure, vous venez, le CCME, le Conseil, vient de publier un coffret avec 5 de vos romans qui sont tous parus entre 2016 et l'an dernier, 2024. Peut-être d'abord une question sur la genèse de ce coffret. Comment est venue l'idée de faire un coffret avec ces 5 romans?
L'idée, elle est venue du président Driss El Yazami, qui, en lisant les 5 romans, m'a dit « Tiens, il y a ici une unité. Est-ce que tu souhaiterais être publié au Maroc dans un coffret ?» Tout d'abord, au-delà de cette invitation, j'ai d'abord pensé, je dirais, au public marocain, puisque j'ai l'occasion de venir souvent parler de ces romans, notamment dans les lycées. Et la question du prix était importante pour moi, et rendre en tout cas ces 5 textes disponibles pour essayer de voir soi-même d'ailleurs cette unité autour de la question des silences, de la dignité. Je trouvais que c'était une belle initiative et j'en suis très content.
Donc c'est un beau cadeau fait au public marocain de rendre accessible économiquement ces romans ici.
Absolument, d'autant plus qu'il y a toujours chez Driss, et comme chez beaucoup de Marocains, l'envie que la jeunesse se mette à lire énormément, et que l'importance de la lecture et le fait que Rabat va devenir en 2026 la capitale du livre, c'est très important de réconcilier les Marocains avec la question du livre.
Alors, puisque vous évoquez le sujet, quel est votre regard? Vous qui venez souvent à la rencontre du public marocain, vous l'avez dit dans des lycées, dans des salons du livre aussi, quel est votre regard sur cette appétence ou cette curiosité pour la lecture aujourd'hui? Parce qu'on a souvent tendance à penser que les Marocains, et notamment les jeunes, lisent peu. Vous, d'après votre propre expérience, quelle est votre perception?
Ma perception, c'est que d'abord, les Marocains lisent beaucoup dans différents types d'outils, que ce soit Internet. Ils passent leur temps à lire. Ils lisent peut-être pas des romans, ils lisent peut-être pas des essais, mais ils lisent. Donc, c'est un certain nombre de pratiques. Simplement, lorsque j'ai l'occasion d'aller les rencontrer dans des collèges et des lycées, là, ils sont face à un texte. Et je vois certains qui me disent « Monsieur, c'est la première fois que je lis un roman. » Donc, je pense que le travail, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que chaque élève ou chaque Marocain ou Marocaine puisse trouver la porte d'entrée, le roman qui va lui donner envie d'un seul coup de découvrir un auteur, découvrir un univers, découvrir un monde. Et ça, c'est globalement le travail des adultes, c'est le travail des institutions d'essayer de faire en sorte que chaque élève puisse trouver le livre.
Alors revenons aux romans qui sont dans ce coffret. Le premier, c'est Lettre à Nour, que vous avez publié en 2016. Il y a eu ensuite Dans les yeux du ciel, suivi du Voyage au bout de l'enfance, Ainsi parlait ma mère, et le quatrième, et enfin Le silence des pères. Les 4 derniers sont sortis entre, je crois, 2020 et 2024. Donc vous avez un rythme d'écriture assez incroyable. Comment vous faites ?
Ben, il faut dire que les livres sont assez courts. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important. J'essaie de travailler la concision, puis j'essaie de travailler quelque chose qui, pour moi, relève de l'urgence, que ça soit Ainsi parlait ma mère et Les silences des pères. C'est tout d'abord le fait de voir mes parents vieillir, ou toute une génération qui est en train de vieillir, et toute la question de la mémoire, de la trace qu'ils ont laissée. Qu'est-ce qui va en rester ? Et je pars du principe que toute vie méritrice, c'est une question de reconnaissance, c'est une question de justice, et que l'on se construit toujours à travers, je dirais, des histoires. C'est-à-dire que nous arrivons dans un monde qui nous précède, dans une culture qui nous précède, nous sommes déjà endettés. Et toute la question, c'est comment saisir cette dette-là, comment tenter d'en rendre compte. C'est pour ça que je pense qu'il faut lire Ainsi parlait ma mère en miroir avec Les silences des pères, Lettre à Nour en miroir aussi avec Voyage au bout de l'enfance et La révolution à travers Dans les yeux du ciel, qui est un sujet à part.
Alors on va venir dans un instant, on va pas prendre de l'avance, on va venir au thème des romans, mais juste par rapport à cette écriture très prolifique, est-ce que ça veut aussi dire que peut-être la fiction ou le genre romanesque vous convient plus? On vous a connu d'abord à travers des essais. Est-ce que le genre romanesque vous correspond plus, d'où cette appétence d'écrire? Et comment s'est faite la transition pour vous?
C'est pas je dirais, la forme qui me correspond le plus. Ce qui me correspond le plus, c'est plutôt les essais, c'est plutôt le concept, c'est plutôt l'analyse. C'est là où je me sens très à l'aise, même lorsqu'il s'agit de parler des romans, le concept vient très très vite. Simplement, pour moi, il y avait une urgence sociale qui était importante de pouvoir parler d'un certain nombre de sujets. Et que l'écriture du roman m'est venue à un moment où je travaillais sur un phénomène de radicalisation, sur le récit de Daesh dans les prisons françaises et belges. Et d'un seul coup, j'ai vu que l'analyse, le recul, la distance ne permettaient pas globalement aujourd'hui de pouvoir parler de ces sujets-là. Et je me suis saisi d'une forme qui est d'abord la correspondance entre un père et sa fille à travers Lettre à Nour pour essayer d'aborder ces problématiques-là.
C'était pour vous Lettre à Nour, donc vous venez de le dire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui part rejoindre les rangs de Daesh sans le dire à son père, qui lui est philosophe et qui est pétri d'une autre façon de voir le monde, beaucoup plus libérale, beaucoup plus ouverte. Est-ce que pour vous, mettre en dialogue ces deux personnages qui incarnent chacun ses positions, qui se sont radicalisées ces dernières années, c'était une façon de promouvoir vos idées en tant qu'essayiste et en tant qu'islamologue par le truchement de la vulgarité et peut-être de toucher autrement le public?
Pas tellement, parce que j'essaie de ne pas mettre mes concepts ou mes idées ou mon analyse sur le Coran ou sur l'islam dans Lettre à Nour.
C'est
pas
et cela. Pourtant, vous le développez beaucoup. Quand le père répond à sa fille en essayant de déconstruire tous ses arguments, on retrouve un peu votre patte et votre réflexion.
Oui, sur certains éléments, mais c'était surtout pour montrer que face à l'extrémisme, face à des radicalités, parfois la raison a très peu de prise sur ces arguments-là. Donc il s'agissait de passer par ce que j'appelle la rhétorique du sensi, par le sensi, par le cœur, par le ressenti, pour parler de ces problématiques-là, puisqu'à chaque fois qu'il lui avance un argument, elle lui donne un autre argument. Mais au-delà de la crispation idéologique qui a été saisie par Nour vis-à-vis de son père, cette Lettre à Nour, c'est avant tout une histoire d'amour entre un père et sa fille, avec une rupture idéologique, deux manières de comprendre l'islam, deux manières de vouloir changer le monde. Est-ce qu'on le change par l'esprit, comme le pense le père, par la vulnérabilité, par le savoir, ou est-ce qu'on le change par la question de la violence? Et ces questions de changement du monde, on les retrouve partout.
Cette thématique de la radicalisation, de l'approche sur le Coran, elle est présente dans plusieurs de vos romans. C'est dans Lettre à Nour, mais c'est aussi dans Voyage au bout de l'enfance. C'est l'histoire d'un enfant qui est un enfant, ce qu'on appelle les enfants de Daesh. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Et on le retrouve aussi dans un livre que vous avez coécrit avec Smaïl Saïdi, le comédien belge qui avait à l'époque fait une pièce jihad, qui avait une pièce qui se voulait comique pour parler de ces jeunes partis en Syrie. Donc c'est une thématique qui vous a quand même préoccupé pendant quelques années et que vous avez voulu traiter sous cette forme fictionnelle. Est-ce que ça veut dire que vous en aviez aussi marre de la façon dont on pensait ce sujet à l'époque? Et est-ce que vous pensez que ça a changé surtout aujourd'hui?
Toute la question pour moi, c'est comment être utile dans une société, c'est-à-dire soit on passe par l'analyse universitaire, ce que je fais comme beaucoup d'autres, et on peut se poser la question de l'impact de notre pensée, de notre travail sur la société, ou est-ce qu'on trouve d'autres moyens pour tenter de changer les représentations de la société? Et ça me vient véritablement lorsque j'étais adolescent à Trappes. On était dans une association qui s'appelait Sud Secours, on s'est beaucoup impliqué pour changer la réalité de notre quartier et au-delà. Et c'est cela qui m'intéresse, c'est comment être utile, comment aborder une complexité, comment donner à penser. Et il m'a semblé que l'analyse, celle que je faisais, avait des limites. Elle a des limites, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et pour moi, passer par la forme littéraire, la fiction, le théâtre ou même le cinéma, c'est une autre manière de donner à penser. Et que la question de la violence, qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de jeunes décident de quitter leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu pour aller dans un pays en guerre, doit toujours nous questionner et ça pose la question du récit. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le récit de Daesh, parce que nous adhérons tous à des histoires, nous adhérons tous à des récits, et ensuite nous essayons de faire en sorte que ces récits puissent exister en agissant. Et en agissant, on renforce la question du récit.
Alors, est-ce que vous êtes parfois frustré de voir qu'en dépit de toute cette pensée que vous offrez, soit sous forme d'essai, soit sous forme romanesque, en dépit de tout le travail que vous faites aussi auprès des jeunes, on n'est pas vraiment sorti d'une forme de polarisation et de binarité dès qu'on évoque ces sujets-là? Les débats publics, et par public, j'entends à la fois politique et médiatique, restent enfermés dans une forme de simplification extrême, là où vous essayez d'apporter de la complexité. Est-ce que ça vous frustre?
Écoutez, moi, j'essaye de travailler avec la réalité de notre temps. Effectivement, il y a les réseaux sociaux qui ont tendance à polariser. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, si on prend la question de la réalité à partir des représentations que donnent les réseaux sociaux, on se plante complètement. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que la réalité, c'est ce qui existe sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai eu l'occasion de traverser la France, de traverser l'Europe, de traverser le monde, et je vois qu'il y a des gens qui viennent et qui ont envie d'écouter, qui montrent cette complexité du monde. Et je trouve que on désespère du monde si on regarde les réseaux sociaux. Mais la réalité ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment se construisent nos représentations les uns des autres. Et en vérité, quand vous allez à la découverte des êtres humains, quand vous allez dans de la géographie, les gens sont là, ils sont capables d'écouter. Et je crois qu'il faut faire attention à la fois à la réalité puis aux représentations qu'on peut avoir de cette réalité. La réalité est toujours beaucoup plus riche.
Alors, on va revenir aux sujets qui sont traités dans vos différents romans. On a parlé de ces deux romans, Lettre à Nour et Voyage au bout de l'enfance, qui traitent de la question de l'islam radical. Les deux derniers, Ainsi parlait ma mère et Le silence des pères, traite un autre sujet, c'est celui de la mémoire des parents immigrés. Donc finalement, que ce soit l'islam, que ce soit cette question de la mémoire des parents, c'est toujours des thèmes politiques et sociaux qui vous rattrapent dans votre écriture romanesque.
Oui, mais parce que, je dis, c'est vraiment lié à la jeunesse, à l'adolescence. Moi, j'avais des frères qui étaient très engagés, il y en avait un qui chantait toutes les chansons de l'Mchahab. Et je trouve que l'Mchahab, c'est pour moi l'un des groupes les plus politiques du Maroc, bien au-delà de Nasr Iwan, qui pour moi restait traditionnel. Donc il y avait déjà dans la famille cet élément politique. Ensuite, il y a eu le domaine associatif, avec la rencontre des chrétiens, avec la rencontre d'un certain nombre de jeunes, où il s'agissait de se dire comment on fait dans un quartier populaire pour qu'il y ait des soutiens scolaires, comment on fait dans un quartier pour que les gens puissent avoir accès à un certain nombre de droits. Et donc du coup, le monde me traversait. Et aujourd'hui, je dirais que ça soit la question de la violence à partir de textes religieux ou simplement politique me traverse, et la question de la mémoire, la question humaine me traverse, et donc j'accepte de me laisser traverser par ces sujets-là, parce que dans tous ces sujets-là, ce qui est en quête, ou en tout cas le but recherché là-dedans, c'est quand même la question de la dignité. Même dans Lettre à Nour, il y a quand même chez Nour l'idée de justice, l'idée de dignité, même chez Fabien au niveau de la violence qu'il subit. Alors
c'est le petit garçon, de Voyage au bout de l'enfance.
Voilà, la maman dans Ainsi parlait ma mère, c'est la question de la dignité, le combat de la dignité, les silences des pères, c'est la question aussi de la dignité. Je crois que c'est plutôt cette lutte de la reconnaissance pour la question de la dignité.
Alors le mot qui va avec dignité, c'est celui d'humiliation, c'est restaurer la dignité là où il y a de l'humiliation. Je crois que c'est un terme qui est aussi important pour vous et qui traverse beaucoup votre réflexion.
Absolument, parce que vous savez, dans Lettre à Nour, à un moment, la fille, elle dit à son père, les pères de notre État, savoir l'État islamique, sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et les humiliations, elles préparent toujours les violences de demain. Et on le voit bien actuellement sur ce qui s'est passé sur Gaza, sur la question de l'humiliation. C'est-à-dire que d'un seul coup, on vous retire complètement votre dignité. Et la question de l'humiliation, c'est aussi la question de la reconnaissance, c'est une question aussi de la lutte pour la reconnaissance en termes de dignité. C'est-à-dire que après, on peut se poser la question d'où vient cette dignité de l'humain. Donc, soit on peut partir du principe qu'il y a quelque chose dans la société qui permet complètement cette dignité, ou on part du principe qu'on, lorsqu'on est dans une croyance religieuse, que la dignité vous est donnée par Dieu. Et donc, à partir du moment où cette dignité, elle dépasse les relations sociales, elle dépasse le cadre sociétal, ben ça vaut le coup, globalement, d'essayer de se battre pour cette question de la dignité. Parce que quand vous avez tout perdu, il ne vous reste plus que la dignité.
Alors, les deux derniers romans, l'un porte sur la maman, c'est l'histoire d'un professeur de philosophie qui s'occupe de sa maman vieillissante, c'est un vieux célibataire, vieux garçon, qui s'occupe de sa maman jusqu'à la fin, c'est un écrit très touchant. L'autre, c'est sur le silence des pères, un homme pianiste qui sillonne le monde et qui finalement se rend compte à la mort de son père qu'il n'a pas beaucoup connu, et il s'en rend compte en découvrant notamment dans la maison des cassettes audio enregistrées par son père. Cette écriture, c'est celle de l'intime. C'est celle des secrets qui traversent toute famille. Est-ce que c'est facile ou pas de se plonger dans les plis d'un récit familial ?
En tout cas, moi, oui, dans la mesure où j'essaye de ne pas parler globalement de mes parents, de ma vie. Donc, du coup, c'est beaucoup plus facile.
Mais ça, c'est une question que j'allais vous poser. Pourquoi est-ce que vous vous cachez, alors que c'est un sujet où vous pourriez parler de vous, tout simplement, et de votre propre expérience ? Pourquoi mettre à distance à chaque fois, créant des personnages qui ne sont pas vous, qui vous ressemblent un peu, hein. J'imagine que le prof de philo, il emprunte beaucoup à votre propre expérience personnelle. Mais pourquoi vous vous cachez derrière des personnages au lieu de tout simplement livrer aussi votre propre histoire, puisque vous dites que c'est important d'en parler?
Oui, mais est-ce que la littérature doit être le lieu du récit de soi, de parler de son intimité, ou est-ce que globalement la littérature doit être le lieu pour parler du monde ou des êtres qui peuvent nous toucher? Je pense plutôt que... Je pense d'abord, fondamentalement, que soi-même, on n'est pas si important que cela. Cela, je l'ai toujours pensé. La question de la personne, toutes nos caractéristiques, elles sont accidentelles, elles ne sont pas si importantes. Le fait d'être né à Kinitra, le fait d'habiter à Trappe, le fait d'avoir eu tel parent, d'être né dans une famille musulmane, tout ça, ce n'est pas si important.
Elles sont accidentelles, mais est-ce qu'elles sont quand même déterminantes la construction de soi?
Elles sont déterminantes dans la construction de soi, mais à un moment, on les relativise. C'est-à-dire que lorsque vous avez eu l'occasion de grandir comme moi au niveau de la société française, Il y a des choses qui relèvent de l'impersonnel, qui traversent toute l'humanité. Et je pense que c'est à cet endroit-là que moi j'ai envie de me situer. J'ai pas envie de raconter ma propre histoire, parce que je pense que en étant un personnage public dans l'espace public et médiatique depuis bientôt 30 ans, on a envie de garder des choses de soi. Puis j'ai pas envie de livrer ma famille ou mes frères et sœurs là-dedans. Je veux dire, il y a quand même une autorisation à demander. Puis quand on écrit de la littérature, le plus important, c'est que les gens se reconnaissent dans l'histoire que l'on raconte, peu importe qui l'on est.
Alors c'est très marrant parce que vous avez fait un lapsus. Vous avez dit, c'est dans cet espace-là que j'ai envie de me situer. Vous avez failli dire, c'est dans cet espace-là que j'ai failli me tuer. Donc, tuer vos caractéristiques qui ne sont pas si déterminantes que ça.
Oui, je le pense. Je le pense sincèrement parce que... Et je le vois bien que même la question de l'ego, c'est la question de la personne. C'est-à-dire, il y a un élément que vous avez et que vous essayez de mettre globalement en avant. Or, moi, ce que je pense, c'est que pour recevoir le monde, pour recevoir les histoires, il faut un peu se vider de soi-même, se vider globalement de ses particularités. Et c'est pour ça que je pense que la question de la vérité, la vérité ne se cherche pas, la vérité, elle advient. Et elle advient lorsqu'on est capable, justement, de laisser de la place à autre chose que soi-même.
Mais est-ce que votre expérience personnelle, même si ce n'est pas celle que vous racontez directement dans vos ouvrages, nourrit vos personnages, nourrit certaines scènes de vos livres, notamment celui sur la maman? Est-ce qu'il y a quand même des choses de votre propre récit familial qui vous inspire?
Absolument. C'est-à-dire que dans Ainsi parlait ma mère, on a ce personnage qui revient s'occuper de sa mère et qui lui lit chaque soir Peau de chagrin de Balzac, le seul texte qu'elle connaît par cœur. Parce que je vois aussi ma mère vieillir et donc se pose la question comment prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous dans un contexte notamment d'immigration où les valeurs familiales elles sont imprégnées aussi par la société d'accueil. C'est aussi toute une génération qui est en train de mourir et une génération qui va aussi dans les EHPAD. C'est-à-dire que quelque chose qui était impensable dans les années 70-80 devient maintenant pensable. Dans les silences des pères, j'ai un père silencieux qui parle pas beaucoup. Donc j'ai essayé de comprendre globalement ces silences.
Est-ce qu'il est l'archétype de beaucoup de papas de l'immigration ?
Énormément, c'est-à-dire que je pensais que tout d'abord que la question du silence était liée à l'immigration, à l'exil, vis-à-vis du traumatisme que l'on peut avoir. Ensuite, j'ai vu mes copains portugais, espagnols avoir le même type de père. Ensuite, dans le monde ouvrier, le même type de père. Dans les familles françaises aussi, au Maroc, ici. Donc, il y a quelque chose qui peut-être relève d'une génération, mais c'est peut-être lié aussi au masculin. Parce que le masculin ne montre pas sa vulnérabilité et donc pour parler, il faut accepter sa vulnérabilité.
Et c'est ce que vous essayez de dépasser.
J'essaye.
Alors, dans ce que j'entends aussi dans tout ce que vous dites, c'est une sorte de devoir de transmission. C'est ce qui manquait peut-être à ce père qui a tout laissé sur des cassettes audio, mais qui a toujours été incapable de parler à ses enfants et de leur raconter son histoire. Est-ce que pour vous, transmettre est quelque chose d'essentiel? Et si oui, que faut-il transmettre? On parle aujourd'hui, et c'est l'objet du roman, d'un père immigré. Est-ce qu'il faut transmettre l'histoire de ce vécu migratoire, de l'exil, de l'arrachement à la terre, de l'arrivée dans un pays qui ne vous reconnaît pas, qui parfois vous humilie, pour revenir au terme employé tout à l'heure? Est-ce qu'il faut aussi transmettre un héritage culturel, un héritage historique, un attachement au pays d'origine? Faut-il transmettre et si oui, quoi?
Ben, je pense que c'est important de pouvoir transmettre. Tout d'abord, comme je disais tout à l'heure, lorsque on arrive dans une conversation qui nous précède, dans une culture qui nous précède, dans une langue qui nous précède, dans des hommes et des femmes qui nous précèdent. C'est-à-dire que globalement, on ne se construit pas tout seul. On se construit à partir des autres. À partir du moment où on entre dans une conversation qui nous précède, il faut savoir de quelle conversation on procède. Et cette conversation, c'est les dits et les non-dits. L'édit de l'histoire, et comme ce père qui est silencieux et ce fils qui découvre l'histoire de son père, tout simplement parce que au niveau de l'école, on n'a pas non plus raconté cette histoire de l'immigration. Donc on a affaire à un double silence et que la question de la mémoire, c'est toujours une question politique. Et je pense qu'il faut transmettre tout en permettant aux enfants de pouvoir, je dirais, remettre en cause cet héritage-là. C'est important de transmettre une langue, c'est important de transmettre une tradition religieuse, mais tout en leur donnant les outils critiques s'ils veulent en sortir. Et je crois que c'est cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission sans rupture, il n'y a pas de transmission sans être quelque part infidèle à un certain héritage. Et c'est comme ça que l'on se construit. Et ensuite, on découvre qu'on n'arrive jamais à transmettre ce que l'on souhaitait transmettre. Hein, quand on est parent, on veut transmettre ceci, cela, et en fait, les enfants prennent complètement quelque chose d'inattendu, et ça s'appelle la question de la liberté. Et je crois qu'il faut d'abord transmettre, il y a un moment, quand on est un père ou une mère, accepter de décroître pour laisser la possibilité à la nouvelle génération de croître. Et je pense qu'on arrive à décroître quand on est aussi dans le silence, parce que le silence, c'est aussi une parole, c'est aussi une manière d'être au monde. Il y a les silences pour protéger les enfants des souffrances qu'on peut avoir subies, des humiliations. Mais c'était aussi une génération qui partait du principe que les souffrances font partie de l'existence, alors qu'aujourd'hui, on est dans une société où on a l'impression que d'entendre « dis-moi quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire que les gens se présentent d'abord dans l'espace public à partir de leurs souffrances. Et donc, ils ne sont plus réduits qu'à l'état de victime.
C'est intéressant. Je n'avais jamais vu cet aspect du fait qu'aujourd'hui, la souffrance est devenue une forme d'identité dans l'espace social et que chacun se positionne par rapport à... Pour vous, c'est ce qui est problématique aujourd'hui dans certaines sociétés, le fait qu'il y ait cette victimisation. Mais en plus, par ailleurs, est-ce que c'est une victimisation qui est pas réelle aussi? Parce qu'il y a des personnes qui sont en véritable souffrance. On parlait des exclusions, on parlait des humiliations, on parlait des stigmatisations. Il y a des vraies souffrances aujourd'hui aussi.
Bien sûr, il y a des souffrances qu'il faut savoir écouter. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de vos souffrances? C'est ça la vraie question. Si vos souffrances, à un moment, ça devient une espèce de combat, de droit à la reconnaissance, à la souffrance, ce que je peux comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a résolu votre souffrance, vous n'allez pas aller mieux. Vous allez aller mieux dans la mesure où, où cette souffrance a été reconnue globalement légitime, mais on voit bien qu'on a tendance à enfermer les gens dans une, dans un phénomène de victimisation.
Mais vous avez employé un mot important, vous parlez de, une fois que cette souffrance est reconnue, peut-être que ce qui est important, c'est une question que je vous pose, c'est pas tant la réparation que la reconnaissance, et je crois que c'est un terme sur lequel vous travaillez, la reconnaissance.
Oui, en tout cas, je travaille sur les théories de la reconnaissance ou la lutte pour la reconnaissance, et on peut lire beaucoup de mouvements sociaux à partir de cette question de la lutte pour la reconnaissance, qui est une question au-delà, je dirais, de la répartition des richesses, qui est d'abord une question morale et qui relève absolument de la dignité. Mais cette question de la lutte pour la reconnaissance, ça suppose une conception de la justice qui repose sur des droits. Et le droit, c'est quelque chose qui relève d'une transaction, c'est quelque chose qui relève d'un rapport de force. Et on peut vous donner le droit aujourd'hui et vous le retirer demain. Comme ça s'est passé pendant le Covid, d'un seul coup, notre droit de voyager, de sortir, nous avait été, je dirais, confisqué. Et que le droit, on le voit bien, il est important pour les plus vulnérables, pour les plus exclus, de défendre leurs droits. Mais les exclus, ce sont ceux qui réclament le moins leurs droits. Ils n'ont pas ce langage du droit. Et donc, c'est pour ça que le langage du droit, c'est toujours le droit du plus fort. Et toute la question, c'est comment développer à la fois une société de droit, mais une société aussi des obligations. C'est-à-dire que les obligations, les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'au Maroc ou ailleurs, si chacun se lève en se disant quelles sont mes obligations envers un tel, ce sont les obligations qui créent une société, ce sont les obligations qui créent une famille, ce sont les obligations qui créent de l'interdépendance. Et on le voit bien aujourd'hui sur ces revendications de droit, et où chacun revendique son droit sans se poser la question de l'unité même d'une société. Et ça crée automatiquement de la concurrence. Et on le voit bien avec ce qui se passe aujourd'hui avec la Moudawana, où certains hommes ont l'impression qu'on leur vole une partie de leurs droits pour le donner aux femmes. Alors que si on partait du principe qu'il s'importe quelles sont les obligations des hommes vis-à-vis des femmes, et vice-versa, quelles sont les obligations dans un couple, quelles sont les obligations vis-à-vis des enfants, quelles sont les obligations à un moment, les gens divorcent, ça changerait quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire que vous, Hanan, toute seule dans l'univers, vous n'auriez aucun droit, mais vous auriez encore des obligations. C'est-à-dire que ce sont les obligations qui précèdent les droits.
Alors, on a un peu digressé, mais une digression très intéressante. Je voudrais qu'on revienne à la question de la transmission que vous évoquiez tout à l'heure. Vous êtes peut-être d'une génération qui a reçu, même dans les silences, puisque vous avez dit que même les silences étaient une forme de partage, cette histoire des parents. Est-ce que vous pensez que la génération suivante va se départir de cette question de pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas transmis ou pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas parlé ? Et vous parliez aussi du fait qu'on n'est pas maître de ce qu'on transmet à ses enfants et ils ont la liberté d'en faire ce qu'ils veulent. Vous faites peut-être partie d'une génération, parce que c'est un thème qui revient souvent chez les gens qui se posent comme transfuges de classe parce qu'ils ont eu accès par le savoir à une autre façon de voir le monde et qui sentent parfois qu'ils sont en trahison. Tout à l'heure, vous avez dit on peut être infidèle, mais il y a le mot de trahison qui n'a pas été employé, mais qui pourtant revient souvent chez cette génération qui, en se départissant d'une part de son héritage, peut avoir le sentiment de trahir. Est-ce que vous pensez que la génération suivante, chez la génération suivante, ces questions-là ne se poseront plus, celles de la trahison et de l'absence de transmission ?
C'est-à-dire qu'on peut avoir ce sentiment de trahison lorsque votre père qui était ouvrier, que vous vous retrouvez professeur ou ingénieur dans une grande institution et que vous avez quitté le quartier dans lequel vous avez vécu. Donc vous pouvez avoir l'impression d'avoir rejoint un autre monde. Trahison, appelons ça rupture. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que toutes les traditions, il y a des ruptures, même d'un point de vue religieux. Le prophète de l'islam lui-même, il a fait une rupture vis-à-vis de la tradition dans laquelle il a vécu. Et c'est à partir des trahisons et des ruptures qu'il y a possibilité de, je dirais, de vie. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que la nouvelle génération, c'est la question du rapport au temps. C'est-à-dire que l'ancienne génération avait le rapport au temps long. Aujourd'hui, avec la technologie, le rapport au temps, c'est l'immédiateté et la spontanéité. Et donc, ça pose le problème de la transmission, parce qu'on ne peut transmettre que dans du temps long. Donc, quand le temps devient aussi court avec TikTok, avec Insta, ou de 20 secondes, 30 secondes, une minute, qu'est-ce qu'il est possible de transmettre ? Et on le voit bien que ça pose des problèmes au niveau politique, puisque le politique n'est plus là que pour communiquer. Ensuite, on le voit bien sur l'enseignement, on a de plus en plus de mal, globalement, à transmettre, parce que ce rapport au temps long que nous avons vécu existera de moins en moins. Donc, cela nécessite de se dire comment est-il possible de transmettre aujourd'hui avec ce nouveau rapport au temps ?
Par les livres qui restent peut-être et qui appartiennent au temps long ?
Absolument, c'est-à-dire que lorsque vous lisez un roman, un livre, lorsque vous allez dans un musée, que vous restez à regarder pendant une heure un tableau, il y a ce que j'appelle, vous vivez une épaisseur du temps. Et je pense que c'est cela qui va être important, c'est comment dans une société, dans une famille, dans des amitiés, on peut vivre cette épaisseur du temps.
Sur cette histoire de l'immigration et de la transmission, j'aimerais qu'on y revienne. Est-ce qu'il y a, dans votre propre expérience, des films, des récits qui vous ont marqué? Et quelle est votre perception de l'évolution dans la façon dont on parle aujourd'hui de l'immigration, que ce soit à travers la littérature, à travers le cinéma ou d'autres formes d'expression? On a le sentiment parfois qu'avant, on parlait beaucoup de l'histoire sociale, de l'histoire politique, à la fois des mineurs dans le Nord, de l'histoire syndicale, et qu'aujourd'hui, on va un peu plus vers une écriture de l'intime, de la vie au sein des familles. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, en tant que lecteur ou spectateur, dans tous ces témoignages sur l'immigration, et comment pensez-vous l'évolution de la façon dont on la raconte?
En tout cas, sur cette question de l'histoire sociale de l'immigration, ça a été un élément important pour inscrire la question de l'immigration dans la question ouvrière, puisque la question de l'immigration relève non seulement de la période coloniale, c'est ce qui explique la présence de Marocains, d'Algériens, je dirais, en France, mais c'est aussi l'histoire ouvrière. Et donc, il s'agissait dans un premier temps de rattacher cette immigration au social et au mouvement ouvrier. Et effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus, d'auteurs franco-marocains, franco-algériens, qui commencent à aborder la question au niveau de l'intime, même si finalement, cet intime-là reste bloqué sur un certain nombre, de représentations qui sont globalement attendues. Et je pense que c'est un passage aujourd'hui obligé et bientôt émergeront, à mon avis, d'autres voix qui raconteront le monde autrement.
On va revenir sur les formes de votre expression. On évoquait tout à l'heure, vous avez commencé par des essais, ensuite le roman. Mais j'ai oublié de dire que certains de ces textes avaient été adaptés notamment au théâtre. Je pense à Lettre à Nour, qui a été adapté sous forme de lecture théâtrale. Éric Cantona, par exemple, pour ne citer que lui, a joué. Dans Les yeux du ciel, on a très peu parlé de Dans les yeux du ciel, mais pour rappel, c'est l'histoire d'une prostituée, maman, dans une ville qui subit de plein fouet le printemps arabe et qui essaye, pour des questions de dignité, vous l'avez évoqué, de s'en sortir avec sa fille. Bon, c'est un roman tragique, on n'en dira pas plus. Mais Dans les yeux du ciel aussi a été adapté au théâtre. L'actrice palestinienne Hiyam Abbas avait joué le rôle de votre héroïne. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, cette forme du théâtre? Parce qu'on a l'impression que vous êtes vraiment un touche-à-tout et que vous essayez de trouver la forme pour passer vos messages ou en tous les cas partager et échanger sur votre réflexion. Vous pouvez nous dire un mot de cette expérience de théâtre?
Oui, en tout cas, la première expérience, ça a été Dans les yeux du ciel avec Hiyam Abbas, où c'est un texte qui a été directement produit en anglais. Mais l'histoire de Dans les yeux du ciel commence plus tôt, c'est-à-dire qu'elle commence par une petite nouvelle dans un ouvrage collectif en 2011 qui s'appelle Histoire minuscule des révolutions arabes. J'avais écrit 6 pages où il y a, l'essentiel de ce que va devenir ensuite en 2015, la pièce de théâtre et en 2020 le roman. C'est-à-dire que pour moi, il s'agit toujours de se dire quelle est la forme, à travers laquelle je peux globalement m'exprimer. Mais il y a quelque chose d'assez fort dans le théâtre, c'est la question du vivant. C'est-à-dire, je me rappelle très bien, je suis allé voir Hiyam Abbas qui jouait en anglais devant 2000 personnes, ou Lettre à Nour, son adaptation au théâtre en Italie devant plus de 2000 personnes. Il y a quelque chose d'un seul coup où les gens vivent ensemble des choses. Voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire que, autant le roman, il y a une relation individuelle, mais je préfère le collectif. Le collectif dans la mesure où c'est le collectif qui fait bouger les choses. Sinon, on risque de s'enfermer soi-même, dans sa petite personne en tant qu'individu. Mais il y a l'idée d'une parole vivante. Et je pense qu'une parole vivante sur scène crée automatiquement du dialogue. C'est-à-dire que j'ai commencé par le dialogue islamo-chrétien, islamo-juif, mais j'essaie toujours de retrouver globalement un espace de dialogue. Et Lettre à Nour au théâtre, c'est cela. Et quand Hiyam Abbas joue en anglais pendant une heure, cette femme avec cette dignité-là, et qui raconte les révolutions arabes, qui raconte sa vie, qui raconte son envie de sauver sa fille, il y a quelque chose je dirais, d'universel qui se passe à ce moment-là.
Essai, roman, théâtre, et puis il y a aussi le cinéma. Il manque plus que la musique, hein. On attend l'album. Ouais. Donc le cinéma, vous avez participé au film, Le jeune imam, de Kim Chapiron, et puis aussi au film de Hassan Gharar qui s'appelle Barbès Little Algérie. Ça, c'est une forme d'écriture qui est complètement différente. Mais évidemment, on retrouve vos thèmes, le jeune imam, Barbès, et encore une fois, l'islam, l'immigration. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi d'aller explorer la forme cinématographique?
C'est une autre forme que moi j'ai rencontrée en 2010 grâce à un réalisateur, Julian Schnabel, qui m'a fait venir à New York, avec lequel j'avais appris et on avait adapté un film pour l'époque. C'était Johnny Depp qui devait jouer dedans. Donc je me retrouve pendant 6 mois à New York, à Manhattan, en train de découvrir tout le monde artistique, je dirais new-yorkais, parce que lui, il a connu les grands, puis ça continue d'être un grand, à la fois un peintre, mais aussi un réalisateur. Et ensuite, Kim Chapiron vient me chercher en tant que consultant. Et je participe un peu à l'écriture, mais vraiment en tant que consultant. Hassan Gharar, c'est autre chose, il me demande d'écrire. Donc j'écris les deux versions. Et Barbès Little Algérie, c'est sur la question du deuil, de quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de sa mère avec tous les conflits qu'il peut avoir avec ses frères. Mais j'ai aussi adapté Ainsi parlait ma mère et Les silences des pères avec Omar Sy, ça sera lui qui les réalisera. Et on vient me chercher sur, je pense, la concision de l'écriture, puis surtout le concept. C'est-à-dire que pour moi, derrière toute écriture, il y a d'abord l'idée du concept. Et c'est quelque chose qui est assez rare dans le milieu du cinéma, de rentrer dans l'écriture d'un film par le concept. En général, on vous dit, il faut que ça soit visuel, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait des tripes, il faut qu'il y ait du cœur, il faut qu'il y ait de l'émotion. Moi, je dis non, d'abord, le cinéma, une histoire, c'est d'abord une relation. Et ensuite, on va essayer de la conceptualiser. Et ensuite, on pourra laisser tous les concepts. Et on pourra commencer à écrire avec le sensible.
Alors quand, par exemple, Omar Sy vient vous chercher pour adapter les romans sur les parents de l'immigration, vous arrivez à vous laisser déposséder de votre texte ou est-ce que vous suivez de près? Qu'est-ce que ça fait en tant qu'auteur? Moi, je suis curieuse juste en tant qu'auteur, comment est-ce qu'on se laisse déposséder de quelque chose ou est-ce qu'on continue à suivre à la trace pour savoir ce que ça va devenir?
Bah, vous savez, moi, quand je termine vraiment un livre, il ne m'appartient vraiment plus déjà. Et c'est-à-dire qu'au moment où il sort, c'est déjà trop tard pour moi. Je suis déjà complètement ailleurs. Et avec Omar Sy, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est lui qui va le réaliser, moi, je me mets à son service. J'ai pas ce rapport de propriété à la chose. Et ayant travaillé sur les textes religieux, je sais que les textes religieux, ils peuvent signifier tout ce qu'ils peuvent signifier en fonction du lecteur. Donc, j'écris, ça ne m'appartient plus, je passe à une autre thématique.
Et ben vous faites une magnifique transition parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre échange et ma question était justement, est-ce que vous travaillez sur un nouveau projet? Puisque vous dites, dès que vous en finissez un, vous travaillez sur autre chose. Si vous souhaitez nous en dire un mot, bien entendu.
Ah, je peux le dire, je viens de remettre à mon éditeur le prochain roman qui se déroule à Gaza, parce que je voulais prendre en compte cette tragédie que nous vivons, cette impuissance que nous avons ressentie, puis la question du malheur, puis en même temps, comment continuer à y croire malgré la souffrance, malgré le malheur, comment continuer à croire en l'humain. Et je dis souvent, il faut, quand on est croyant, il faut espérer en Dieu pour ne pas désespérer des êtres humains. C'est au niveau de la littérature. Et j'ai adapté avec Atiq Rahimi, qui est à la fois romancier et réalisateur. J'ai fait une adaptation de Dans les yeux du ciel. Voilà, c'est le prochain projet.
Une adaptation cinéma?
Une adaptation cinéma.
Eh bien, ça en fait une actualité pour 2025.
Bon, il suffit simplement de dormir 4 heures par nuit. Merci.
Bon, on aura l'occasion sans doute de vous recevoir lors de... Il est pour quand le prochain livre? Prévu pour quand?
À la rentrée littéraire, c'est-à-dire fin août, début septembre 2025.
Donc rendez-vous en septembre 2025 avec votre nouveau roman sur Gaza. Et je rappelle la parution donc de ce coffret avec les éditions Le Fennec qui comporte 5 de vos 5 romans parus en collaboration avec les éditions Le Fennec et le CCME. Merci beaucoup Rachid Benzine d'avoir été avec nous.
Merci.